Bienvenue à votre espace de discussion, aujourd'hui axé sur les féminicides en Côte d'Ivoire. Le féminicide désigne le meurtre d'une femme ou d'une fille en raison de son sexe. 416 cas enregistrés en Côte d'Ivoire durant la période 2019-2020. D'après une enquête du CPDFM, citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, c'est pour mettre en lumière les facteurs explicatifs, les causes profondes de ce fléau et formuler les recommandations en vue de sa réduction, voire de son éradication, que nous avons aujourd'hui décidé de mettre sur la table ce sujet. Quatre invités à l'affiche de ce temps de discussion. Sur le plateau, Karel Brica, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes chargée d'études à l'ONG CPDFM.
Oui.
D'accord. Et Koné Manuela, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice exécutive de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe, ORAF.
Tout à fait.
D'accord. Au téléphone, nous serons avec Sylvia Pata, cofondatrice du CPDFM, et Koulibaly Pélivien Gislain, qui est sociologue, spécialiste, genre, par ailleurs, président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, REXI.
Sujet de discussion.
Avant d'aller plus loin, donnons la parole à Sylvia Pata. Elle est cofondatrice de l'ONG CPDFM, structure qui a produit un rapport dont les résultats ont révélé que 416 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-compagnon en 2019-2020.
Les féminicides sont la résultante des violences conjugales. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Donc, plus les violences sont observées au sein des ménages et que les résolutions à l'amiable demeurent, plus nous constatons des cas de femmes qui sont battues jusqu'à ce qu'elles décèdent à la suite de ces coups-là.
Qu'est-ce qui explique le meurtre de ces femmes, de ces filles?
C'est le fait que dans l'esprit des compagnons de ces victimes-là, la femme est leur possession. Et donc, elle me doit obéissance, soumission totale. Et dès que je commence à sentir que je perds le contrôle sur la personne, alors juste de violence. Et ce sont des violences répétées qui finalement arrivent au coup fatal. En 2019-2020, on observait beaucoup de scènes de violence dans les ménages et la banalisation de ces violences-là. Et c'est comme ça que nous avons réalisé une enquête sur les violences domestiques au sein des ménages, les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est en enquêtant sur les cas de violences conjugales que nous avons pu documenter des cas de féminicide.
D'accord. Et l'enquête a été diligentée sur Abidjan ou sur toute l'étendue du territoire national?
Alors, l'enquête a été diligentée sur Abidjan, mais concernant le sujet des féminicides, les personnes que nous avons interrogées vivent à Abidjan, mais nous ont expliqué des faits de meurtre, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Et c'est tout cela que nous avons documenté et publié les 416 cas de féminicide.
Alors, ces 416 cas, pas seulement sur Abidjan, mais sur toute l'étendue du territoire national?
Exactement.
D'accord. Alors, le mouvement de lutte contre les inégalités MLCI, qui est un mouvement féministe, pense que ce fléau-là persiste parce qu'il n'y a pas de volonté de lutter contre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. D'abord, si on veut prendre au niveau de la cellule familiale, parce que pour que la société puisse réagir, notamment la justice, il faut que l'information soit portée. Mais ce qu'on constate malheureusement, c'est que les cas de violence conjugale, les cas de féminicide sont réglés à l'amiable. Et ça reste au sein des familles. Du coup, l'information ne monte pas jusqu'à au commissariat, à la brigade de gendarmerie ou chez le procureur. Donc, il faut prendre le problème à bras le col et arrêter de résoudre les problèmes à l'amiable. Donc, il y a la responsabilité des parents. Ensuite, au niveau de la justice, la question des violences faites aux femmes et aux filles en général. Il n'y a pas assez de rigueur dans l'application des lois, mais une chose est certaine, c'est que quand il s'agit des faits de meurtre, la justice réagit toujours. Donc, ce que nous, on peut continuer de faire et d'exhorter les populations à la dénonciation, il faut porter l'information au tribunal. Maintenant, au niveau étatique, il faudrait continuer de renforcer les mécanismes de prise en charge. Aujourd'hui, on salue le fait que depuis 2019 jusqu'ici, on a de plus en plus des centres d'hébergement. On a l'ONG Akwaba Mousso qui est un centre d'hébergement. On a l'ONG Bloom qui est un centre d'hébergement. Mais il faudrait que nous puissions arriver à ce que dans chaque commune, Il y a des centres d'hébergement de nature à justement créer la sécurité, mettre les victimes en sécurité. Et je pense que plus nous allons réagir à différents niveaux, nous allons parvenir éventuellement à endiguer ce mal-là. Mais il y a une autre chose aussi qu'il faut retenir au niveau du droit. C'est vrai que le féminicide, c'est un meurtre. Et que dans le code pénal, le meurtre est sanctionné, il est puni. Mais étant donné que les violences faites aux femmes et aux filles interviennent dans un registre particulier, il convient que l'infraction féminicide soit dans le code pénal pour que justement la question soit encore mieux traitée et que les auteurs ne restent pas impunis.
Quelle est la tranche d'âge des victimes de façon générale?
Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 17 ans, les jeunes filles sont déjà en danger jusqu'à 60 ans. Parce qu'il y a des dames de 60 ans, de 65 ans qui sont mortes comme ça, sous des coups. Donc en réalité, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une tranche d'âge particulière qui soit exposée à la violence. C'est tout le monde qui est exposé à cette violence-là. Et c'est pour ça que tout le monde doit unir les efforts pour l'endiguer.
Sylvie Apata, un mot de fin, un appel à lancer?
Alors, l'appel que j'ai à lancer, c'est d'inviter tout le monde à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que quand je suis avec mon amie et qu'elle se plaint du fait que son compagnon soit violent, que je l'encourage à se maintenir, ou ma sœur, ou mon enfant, que j'encourage à se maintenir dans un tel foyer, je suis implicitement complice de ces cas de féminicide-là qui sont constatés. Donc, je pense que il faudrait que nous comprenions que l'amour, ce n'est pas la violence. Un amour qui se transforme en violence, il faut que nous prenions nos responsabilités, que ce soit l'entourage, comme les personnes qui sont concernées elles-mêmes, de se rapprocher des spécialistes, des ONG, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et de demander de l'aide. Parce que tant que vous ne demandez pas de l'aide, on ne pourra pas agir. Et il faut agir et agir à temps.
D'accord, c'est bien noté. En tout cas, merci Sylvie Apata pour votre contribution.
Je vous en prie.
À l'instant donc, vous écoutiez Sylvie Apata, cofondatrice de l'ONG CPDFM, qui n'a pas pu être sur notre plateau, mais nous sommes avec vous, Karel Brica. On rappelle que vous êtes chargée d'études au sein de cette structure. Déjà, avant d'aller plus loin, dites-nous quelle définition vous donnez au féminicide.
Alors, pour compléter ce que déjà Madame Sylvie a déjà annoncé, je vais peut-être en venir avec la définition de l'OMS qui reconnaît 4 types de féminicide.
Allez-y.
Alors, pour l'OMS, il y a le féminicide intime. Il est commis par un époux ou un petit ami actuel ou un ancien partenaire. On a aussi le féminicide commis au nom de l'honneur, le féminicide lié à la dot et le féminicide non intime. Donc, ce sont tous les meurtres d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de sa condition féminine dans un contexte de violence conjugale, domestique, d'harcèlement sexuel, de discrimination ou encore d'autres formes de violence.
D'accord. Qu'on est Manuela sur la même question.
Sur la même question, ma consoeur, elle a déjà tout dit. Il s'agit justement, pour faire court, de meurtres de femmes en raison de leur sexe.
D'accord. Alors, c'est vrai que Sylvie Apata en a parlé dans l'élément que vous avez eu à écouter. Mais selon vous, Koné Manuela, quelles sont les causes du féminicide en Côte d'Ivoire?
Les facteurs contributifs, on peut dire qu'il y a les situations de crise. On prend l'exemple de l'étude qui a été faite par le CPDFM qui s'est déroulée juste après la période post-Covid.
C'est ça.
Et on voit que durant cette période-là, il y a eu une véritable explosion de tout ce qui est féminicide, même dans le monde. Il y a eu un rapport aussi de l'ONU Femmes, compilé à l'ONU DC, qui disait qu'il y a 89 000 femmes qui ont trouvé la mort au cours de cette période-là.
Et où exactement?
Dans le monde, en fait. D'accord. Dans le monde. Et la moitié, justement, de ces femmes, de ces meurtres, justement, découlaient de partenaires intimes. Pour dire que durant les périodes de crise, que ce soit des crises sanitaires, des crises humanitaires, les femmes sont beaucoup plus exposées. Mais en dehors de ces périodes-là aussi, même dans les périodes tout à fait normales, si on peut dire ça comme ça, les femmes sont toujours encore exposées justement à cause de ces différents facteurs de violence domestique. Y a aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs des croyances traditionnelles, culturelles. Je vais prendre le cas de l'Inde, peut-être que ça s'éloigne un peu, mais ça se fait aussi un peu partout dans le monde. Ce sont les sélections prénatales. Lorsqu'on voit qu'il y a une fille qui va naître, on dit non, on peut pas, parce qu'on a besoin d'un garçon pour perpétuer le nom, et on met fin en interrompant la grossesse. Et il y a aussi ce facteur-là. Il y a tellement de facteurs qui on va dire, enracinent ce problème des féminicides qu'on ne peut que dire qu'ils sont pléthores, en fait.
D'accord. Karel, au niveau du rapport, qu'est-ce qui est ressorti, parlant toujours des facteurs explicatifs?
Alors, on va se baser sur notre expérience sur le terrain.
Allez-y.
Ce qui est plus ressorti, c'est, comme déjà ma consoeur l'a dit, on a des facteurs socioculturels. On est confronté à des communautés ou des sociétés qui valorisent les violences faites aux femmes, qui prônent cette culture-là de « c'est normal de battre sa femme ». Il y en a des sociétés qui prônent l'égalité entre le genre, et toutes ces dynamiques associées au pouvoir sont des facteurs qui favorisent le féminicide. On a aussi l'aspect de la précarité financière. Il y a des femmes qui sont dépendantes financièrement de leur mari, et suite à le fait de ne pas pouvoir être maître de ce que tu dépenses, peut aussi créer des violences qui vont s'ensuivre par le féminicide.
D'accord. Donc,
c'est ce qui est un peu ressorti, et aussi la culture du silence, on ne parle pas. Voilà.
Mmh. L'omerta, carrément.
Effectivement, on ne parle pas, on préfère ne pas le dire, ou on reste dans le déni. C'est ce qui est plus ressorti sur dans le terrain. Voilà.
D'accord. Et justement, sur le terrain, quel est le regard de la société vis-à-vis du féminicide? On va rester avec vous, Karel Brica.
Alors, le regard de la société vis-à-vis du féminicide, il se retrouve, comme je l'ai dit, dans les causes. Si nous sommes dans une société où je grandis, et chez moi, c'est normal de battre une femme. C'est normal, l'homme a le pouvoir surtout. Je grandis avec ce système de pensée-là. Et je n'ai même pas connaissance que le féminicide, je ne connais pas, je vais dire, la description de ce que c'est le féminicide. Donc, c'est ce système de pensée-là que moi aussi, je vais perpétuer. Donc, de ce qu'on a vu, c'est ce que la société a reçu qu'elle donne, en fait. Donc, voilà. C'est que la culture, ce soit les pratiques culturelles, religieuses ou encore la précarité économique qui pèse le plus au niveau de la société.
D'accord. Qu'en Emmanuela?
Pour moi, les féminicides au niveau de notre société sont banalisés, parce que comme ils découlent le plus souvent de violences domestiques, de violences conjugales, on les met sur des coups d'accident. Alors que dans un autre contexte plutôt, cela serait considéré effectivement comme des meurtres. Donc le féminicide dans nos sociétés est réellement banalisé, justement comme l'a dit tout à l'heure Karel, à cause de ces croyances-là qui pensent que c'est pas grave de battre une femme, il faut la corriger quand elle est, comment dirais-je, quand elle parle, quand je parle, elle répond et tout ça. Et donc,
Sylvia Pata parlait de l'autorité de l'homme, voilà,
tout à fait, prouver son autorité, ne pas laisser l'autre s'exprimer et tout ça. Donc, ça favorise facilement et une certaine désinvolture à ce niveau-là. Et parfois, même quand on se retrouve sur le terrain, les gens ne prennent pas cela au sérieux. C'était juste un petit coup qu'il lui a donné, c'était un petit accident et tout.
Mais qui ne prend pas au sérieux concrètement? Est-ce que c'est la victime ou l'auteur?
Mais la victime n'est plus
elle
là
n'est
pour.
Plus. Elle n'est plus
non,
là
mais quand vous dites que vous étiez sur le terrain par rapport aux
société,
questions que vous posez.
Généralement, les personnes autour. Je vais prendre un exemple. En 2019, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur les réseaux sociaux, il y avait une jeune fille qui s'était fait tuer, qui avait été assassinée, parce qu'on ne se fait pas tuer, on se fait, on est assassiné, qui avait été assassinée à Bobo, je crois, parce qu'elle avait refusé de donner son numéro de téléphone. C'est un féminicide. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de donner son numéro de téléphone. Et les commentaires sur les réseaux sociaux étaient d'autant plus choquants parce que il continuait de blâmer la victime et non pas l'auteur de cette atrocité en disant pourquoi elle n'a pas donné son numéro. Sûrement elle a été impolie, il voulait la corriger, mais c'est allé. Je tombais des nues. On trouve toujours des excuses aux auteurs, mais on ne se dit pas que c'est pas la faute de comment dirais-je de la victime, mais c'est plutôt la faute de l'auteur. On rejette toujours la faute sur la victime et c'est ce qu'on appelle aussi le victim blaming.
Et qu'est-ce que les femmes elles-mêmes pensent du féminicide? Vu que vous êtes très souvent au contact des populations dans le cadre de vos activités, Karel Brica.
Alors, toujours dans le cadre de nos activités, avec l'expérience que nous avons reçue sur le terrain, la femme déjà ne sait pas ce que c'est. Le féminicide n'est pas, c'est une thème qui n'est pas connu déjà et il n'est pas aussi signalé parce qu'il n'y a pas, il y a ce manque de sensibilisation derrière qui fait que on se dit, on est dans le déni en fait. Est-ce que tu as déjà été témoin de cas de féminicide? Soit elle va te dire oui, quand on va essayer de définir, ou pour ne pas peut-être revenir sur l'expérience, la mauvaise expérience, elle te dit non carrément, ça peut-être son système, la société dans laquelle elle a grandi, elle évolue, ne lui permet pas d'en parler, il y a la peur derrière. Donc on est vraiment dans un système de silence, voilà, qui ne dit vraiment pas. Si je peux dire son nom.
D'accord.
On ne parle pas vraiment.
D'accord. Connais Manuela?
Comme je le disais tout à l'heure, même au niveau des femmes, certaines femmes qui banalisent, qui se disent ce sont des choses qui arrivent, il a voulu peut-être la corriger, ça peut être purement accidentel. C'est une situation qui est vraiment déplorable parce que on en arrive au fait même que les femmes pensent que c'est normal, alors que ce n'est pas du tout normal. Et comme elle a dit tout à l'heure aussi, le féminicide, c'est pas quelque chose qui est ancré, n'a pas vraiment de définition. On ne sait pas vraiment ce que c'est que le féminicide sous nos cieux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le nommer. Forcément, on va passer outre.
D'accord. Tout de suite, nous allons retrouver toujours sur la même question, le même sujet du féminicide, Ghislain Pelibien Koulibaly.
Je suis sociologue spécialiste genre, par ailleurs président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire.
Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'un conjoint ou un ex-compagnon puisse battre sa compagne, sa femme, jusqu'à ce que mort s'en suive?
Je vais peut-être répondre à cette question en rappelant la définition même du féminicide. Parce qu'en réalité, le féminicide désigne le meurtre d'une femme, d'une jeune fille ou d'un enfant en raison de son sexe. Voyez-vous, et quand on regarde les violences domestiques en Côte d'Ivoire, il y a que, malheureusement, on constate une sorte de masculinité toxique. Et cette masculinité toxique, généralement, met en exergue la masculinité qui rimerait avec violence. Bien malheureusement, on constate que certains hommes, et dans la plupart des cas, sont auteurs de ces violences domestiques. Et il y a des déclencheurs. Pour moi, la première cause, c'est une cause sociologique. Quand vous regardez le système social de nos pays africains, c'est un système social qui expose les femmes à la violence, les expose à toutes sortes de discriminations. Généralement, lorsque nous sommes dans des relations entre conjoints, lorsque dans notre perception sociale, on a un stéréotype qui positionne l'homme dans la relation comme quelqu'un de supérieur à la femme, cela peut naturaliser la violence domestique dans nos foyers. Donc, le premier stéréotype, c'est le fait de dire à souhait que l'homme est le chef de la famille, l'homme est supérieur à la femme. Ça, c'est une cause sociologique. La deuxième cause qui peut également déboucher sur des violences domestiques, c'est la répartition des tâches domestiques ou des tâches ménagères qui, pour moi, introduit un déséquilibre dans la répartition des tâches. On dit les femmes, c'est 3 à 4 heures de plus que l'homme en termes de tâches domestiques. Et donc, lorsque ces femmes n'exécutent pas ces tâches domestiques ou ménagères, ça peut déboucher sur de la violence. Vous savez aussi que la question de l'autorité, du leadership, est construit autour de l'homme. Lorsqu'il y a une remise en cause du leadership masculin, de l'autorité masculine, ça peut encore déboucher sur la violence domestique. Et le quatrième stéréotype, c'est le contrôle de la sexualité. Je suis malheureusement obligé de vous dire que bien souvent, ce que nous constatons, c'est que la sexualité est normée dans nos sociétés. Et lorsque la femme ne se comporte pas comme on voudrait, on se retrouve aussi dans des cas de violence. En clair, les féminicides qui sont intégrés dans la grande catégorie des violences domestiques, qui sont en réalité des violences basées sur le genre, sont enracinés dans l'inégalité entre les sexes, dans l'abus de pouvoir, dans les normes néfastes. Et c'est l'expression principalement utilisée pour souligner le fait que les déséquilibres de pouvoir structurels fondés sur le genre placent les femmes et les filles dans une position qui les expose à toutes sortes de risques et toutes sortes de vulnérabilités. Donc la première cause est sociologique. La deuxième cause, il y a des facteurs aggravants. L'alcool est un facteur aggravant. Si vous avez un homme qui est imbibé d'alcool, cet alcool-là peut le pousser à devenir violent. Voyez-vous ? Donc l'alcool, la drogue, donc les stupéfiants sont des facteurs aggravants. Et pour nous, tous ces facteurs-là vont finir par aller crescendo. C'est des violences verbales, violences physiques, et ensuite, on peut se retrouver avec même des personnes qui meurent sous les coups et blessures de leur conjoint, et c'est une réalité.
On va terminer. Qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, pour lutter contre particulièrement les féminicides en Côte d'Ivoire?
Alors, ce que je voudrais proposer, c'est la tolérance zéro contre toutes les formes de violence basées sur le genre, de violence faite aux femmes et les formes de féminicide. L'État ne doit pas tolérer, il faut appliquer de façon stricte la loi lorsqu'on se retrouve avec des femmes qui sont exposées aux violences faites aux femmes ou aux violences basées sur le genre. Ça, c'est un. La deuxième chose que je voudrais proposer, c'est faire en sorte que les hommes soient ciblés, les garçons soient ciblés, ciblés justement pour qu'ils soient dans une approche de masculinité positive. Il faut qu'on éduque nos garçons et nos hommes. Il faut qu'on les sensibilise parce qu'aujourd'hui, ils doivent prendre conscience du fait que les féminicides constituent une réalité, les violences faites aux femmes constituent une réalité et il faut absolument que ces hommes prennent conscience et donnent une nouvelle signification au fait d'être homme. La violence à l'égard des femmes et des filles est une atteinte grave aux droits de la personne. Et c'est fréquent. Il faut comprendre que cela a des conséquences graves au niveau physique, au niveau économique, au niveau psychologique sur ces femmes qui sont des catégories vulnérables. Donc il faut travailler à sensibiliser, à éduquer ces hommes. Il faut les former et c'est très important. Il faut aussi que ces femmes n'attendent pas qu'on continue de les asséner de coups. Il faut qu'elles puissent quitter le foyer conjugal lorsqu'elles sentent qu'elles ont un conjoint qui fait preuve de masculinité toxique. Elles doivent fuir la violence. Elles ne doivent pas attendre que les coups se répètent.
Alors, si vous le permettez, Ghislain Coulibaly, vous demandez à la femme de sortir de cette atmosphère de violence, de fuir. Oui. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de structures d'accueil pour ce genre de cas, pour ces femmes-là?
Oui, mais votre question me permet justement de faire un plaidoyer. Vous savez qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une loi qui protège davantage les femmes. Et malheureusement, aujourd'hui, on a très peu de centres d'accueil, non seulement de centres d'accueil et de transit. C'est vrai, on a le centre Pavios qui existe, qui a caractère public, et on a plusieurs centres privés, mais c'est insuffisant. Il faut que le plaidoyer soit fait auprès des décideurs pour que nous puissions avoir plus de centres d'hébergement et de transit. et il faut financer les organisations de la société civile qui s'engagent à prendre en charge les femmes qui sont victimes de violences physiques, coups et blessures ou de toute forme de violence faite aux femmes. Et donc, pour moi, c'est un plaidoyer. Nous préconisons la fuite de ces femmes, malheureusement, parce qu'elles sont exposées à la mort. C'est pour cela que nous disons qu'il ne faudrait pas accepter les premiers coups. Lorsque vous ne dénoncez pas les premiers coups, les autres coups sont mortels. Et donc, nous demandons aux femmes de saisir très rapidement les structures compétentes. Je veux parler des commissariats, je veux parler des brigades de gendarmerie en milieu rural, et je veux parler aussi des centres sociaux, des complexes socio-éducatifs et des 100 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre qui sont disséminées sur l'ensemble du territoire.
Justin Koulibaly, je vous remercie. On rappelle que vous vous êtes prononcé sur la question du féminicide en Côte d'Ivoire.
Merci, c'est moi.
À l'instant, Koulibaly Pélibien, Justin, sociologue, spécialiste, genre, par ailleurs président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, REXI. Alors, juste après son intervention, quelle réaction? On commence par qui? De Karel Brika ou de Kone Manuela qui se jette à l'eau? Alors, on va commencer par Karel Brika, vu que vous êtes dans mon... dans mon champ de vision.
Alors, il a, docteur Koulibaly a effectivement raison. Il y a beaucoup de choses à faire encore sur le féminicide qui est une réalité. Et les causes, il en a vraiment cité. On a besoin de financement. Comme il l'a dit, il faut déjà essayer d'intervenir au niveau de financement, soutenir les organisations qui luttent, qui militent sur la question des violences faites aux femmes et aux filles. Parce que le féminicide n'est pas seulement un volet, mais il y en a plusieurs types de violences à l'intérieur. Et je pense que si associé à cela, si cette infraction-là fait partie de façon explicite dans les lois, on pourrait peut-être arriver à lutter, à arriver à quelque chose, on va dire ça.
D'accord. Connais Manuela.
Déjà, le féminicide, si on parle de féminicide, ça veut dire qu'il y a mort.
Oui.
Donc, c'est plus une infraction, c'est un crime. Et donc, je pense qu'il faut déjà nommer le féminicide dans nos législations. Il faut donner un nom, comme ça, cela a été fait pour le viol en 2019, parce que le viol n'était pas défini au niveau du code pénal. Il faut définir le féminicide comme étant un meurtre à part entière dans le code pénal également. Et en ce qui concerne, on va dire, tout ce qui est lutte contre le féminicide aussi, il faudrait des chiffres. Il faut que nous ayons des chiffres, parce qu'on n'a pas de chiffres. À part l'étude qui a été faite par le CPDFM, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de données probantes sur lesquelles on puisse s'appuyer pour faire un véritable plaidoyer. Donc sans chiffres, on ne peut pas réellement travailler. Donc j'exhorte aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de financement également pour soutenir toutes ces organisations-là qui se battent pour avoir des chiffres. Notamment, c'est aussi le cas de l'ORAF qui est un centre de recherche et qui aimerait justement avoir tous ces financements-là pour pouvoir avoir accès à des chiffres probants sur ces questions de violence basée sur le genre. Parce que le féminicide en lui-même, c'est le summum, le point culminant même des violences basées sur le genre. Donc, il nous faut des chiffres, il nous faut du financement.
D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, comme d'autres organisations, que le fléau persiste et le CPDFM a déploré le fait que le nombre soit en hausse? Est-ce que vous pensez que ce soit dû à un manque de volonté à s'impliquer contre ce fléau? C'est vrai que vous avez parlé de financement et tout, mais au-delà.
Je ne pense pas que l'État, il y ait un manque de volonté de l'État. Je pense plus qu'il y a une mauvaise coordination sur le terrain. Parce que on peut faire des lois, on peut faire tout ce qu'il y faut, mais ça ne suit pas sur le terrain parce qu'il n'y a pas de communication. Et on va dire que le volet communication est très important, surtout pour nos populations. Tout le monde n'est pas allé à l'école, tout le monde ne comprend pas forcément. Donc, il faut trouver le moyen de vulgariser toutes ces lois-là. Il faut trouver le moyen de faire passer le message à ces populations. Et donc, il faut beaucoup mettre l'accent sur la communication, sur le terrain. C'est vrai que sans financement, il n'y a rien, mais la communication aussi fait tout. Et il faut aussi mettre fin à tout ce qui est règlement amiable, surtout en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Parce que cela renforce le sentiment d'impunité des auteurs de ces violences-là. Et plus leur sentiment est renforcé, plus ils vont se permettre d'aller crescendo dans la violence. C'est tout à fait normal. Donc, il faut arrêter tous ces systèmes de règlement à l'amiable instauré au niveau de nos sociétés.
Et de maintenir dans le foyer.
Tout à fait.
Là-bas.
Parce que les femmes, elles veulent fuir, mais elles ont peur parce qu'elles se disent que, bon, si je sors, ils vont me critiquer. Même mes propres parents vont me dire de retourner. Ils vont me dire de prier pour mon mari parce que c'est le diable. Non, ce n'est pas le diable. C'est une question de violence. Si la personne qui est violente ne veut pas s'arrêter, ça veut dire que moi, ma vie est en jeu. Ma vie est en jeu. Donc, il faut parler. Il faut penser à soi-même d'abord. Et aussi, comme l'a dit M. Ghislain, c'est important de créer des structures justement pour leur permettre de s'enfuir. Parce que forcément, il y a des femmes qui n'ont plus le soutien familial lorsqu'elles partent. Il y a aussi le fait de pouvoir les autonomiser financièrement, économiquement, qui est un point très important parce qu'on ne peut pas les retirer de leur cocon familial où elles avaient un tant soit peu le confort qui leur était donné et qui favorisait justement ces violences-là. Parce que la plupart du temps, elles ne veulent pas partir parce qu'elles se disent « qui va s'occuper de moi ? Qui va s'occuper des enfants ?» et etc., etc.
Alors justement, vous abordez le point des enfants. Une femme victime de violences au niveau de son foyer, est-ce qu'elle doit fuir seule ou avec ses enfants, sachant que son mari ou son compagnon est un homme violent?
Pour moi, la question ne se pose pas. Si il a pu me porter main, ce n'est pas les enfants qui seront épargnés. Et la plupart du temps, dans les cas de féminicide, s'il y a des enfants, ce sont les enfants qui seront les premières victimes. Parce qu'il faut trouver un foyer où les loger. Et ce sont des orphelins qui sont là. Parce que si le père part en prison, parce que c'est la question qu'il faut se poser aussi, parce que la plupart du temps, on disait, c'est réglé à l'amiable. Mais ces enfants-là, ils vivent avec ce traumatisme que leur mère a été assassinée par leur père. Et ça, c'est une question sur laquelle aussi on doit plancher. Comment suivre ces enfants-là psychologiquement? Comment les accompagner pour se reconstruire? Ça aussi, c'est une question qu'il faut mettre dans le cadre quand on lutte contre les féminicides.
Karel Brica?
Oui, effectivement, on ne peut pas parler de victimes sans les enfants s'il y a enfants. Si nous sommes dans un cas de féminicide, la femme n'est plus, les enfants sont des victimes, les premières victimes de ce féminicide-là. Et on doit les prendre en charge, eux aussi. Parce que s'ils ne sont pas pris en charge déjà, il y a un impact sur leur santé psycho-émotionnelle. Et même, ils peuvent reproduire le cycle de violence plus tard. Donc, c'est aussi une cible, ce sont les cibles qui doivent être aussi prises en charge.
D'accord. Alors, on va essayer d'en savoir plus sur l'organisation pour la réflexion de l'action féministe ORAF. Est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation?
L'ORAF, c'est un centre de réflexion, un centre de recherche, et nous travaillons sur tout ce qui a trait aux droits des femmes et des filles. Notre idée phare, c'est l'ODD-5. Qui parle d'égalité. Et c'est important pour nous, cet aspect d'égalité, de promotion de l'égalité, parce que justement, c'est avec toute cette discrimination-là que nos sociétés se sont endiguées dans un sous-développement. Parce que je parle en mon nom, pour ma part, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de transformation sociale si il n'y a pas d'égalité. On le voit très bien avec le cas du Rwanda qui actuellement est le premier pays au monde à instaurer la parité, l'égalité. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que le pays est sur le point de se relever économiquement. On voit toutes ces évolutions. Et on ne peut pas se dire que non, une moitié de la population est sous le joug de violence et s'attendre à ce qu'on avance, c'est impossible. Donc on a besoin de cette égalité-là au niveau, à tous les niveaux, au niveau de nos droits, pour que nous puissions aussi contribuer de manière efficace au développement.
D'accord, je vous remercie, Karel Brica. Concernant l'ONG CPDFM.
Oui, CPDFM, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, nous nous inscrivons dans cette promotion-là, bien évidemment, et le respect des droits des femmes, plus précisément femmes et enfants et minorités. Alors, nous sommes plus dans la collecte de données. On essaie de contribuer à pouvoir documenter tout ce qui est question de violences faites aux femmes et aux filles en Côte d'Ivoire. À côté, nous faisons des sensibilisations toujours dans le même cadre pour les violences faites aux femmes et aux filles.
D'accord. On va terminer notre espace de discussion avec des recommandations, justement.
Alors, pour terminer, si je peux le dire ainsi, en fonction de ce que nous avons reçu sur le terrain, il faut déjà dire que le féminicide, c'est une réalité. Mais les violences faites aux femmes et aux filles, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire et qui a besoin de financement, qui a besoin de sensibilisation, d'un effort de sensibilisation avec tous les moyens que nous pouvons y avoir déjà pour commencer et pour lutter contre toutes ces violences faites aux femmes et aux filles. Il faudrait, comme ma consoeur l'a dit, pouvoir mettre un nom sur le féminicide dans les lois pour pouvoir les appliquer et rendre justice à ces victimes-là.
D'accord. Con Emmanuela, un mot de fin?
Moi, je dirais qu'il faudrait d'abord et avant tout des données, parce que même dans la nouvelle statistique, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de données probantes sur le féminicide. Il faudrait que chaque année même, qu'il y ait des données pour qu'on sache où on en est. Et évidemment que les féminicides vont aller crescendo, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas, de sanctions, il y a trop d'impunité. Donc, je vais reprendre le mot du docteur Koulibaly, il faut une tolérance zéro. Il faut que les auteurs de violences basées sur le genre, de violences domestiques, répondent de leurs actes pour qu'ils sachent que maintenant c'est plus comme avant, ou quand tu tapes quelqu'un c'est pas grave, que maintenant on doit assumer ses responsabilités, parce que s'il y a cette épée de Damoclès là au-dessus de leur tête, je pense que ils vont s'arrêter et ils vont commencer à réfléchir avant d'agir. Il y a aussi la question dont on discutait tout à l'heure des financements, parce qu'on ne peut malheureusement rien faire sans financement. Et donc une augmentation et une certaine synergie de financement de cette lutte-là par les différents ministères aussi pourrait contribuer à ce qu'on puisse l'éradiquer. Après ça aussi, il y a la question de la sensibilisation. Il faut trouver les voies et moyens, les canaux appropriés pour pouvoir parler et mettre sur la table la question des féminicides en Côte d'Ivoire.
Je vous remercie. Pour parler de féminicides en Côte d'Ivoire, nous étions sur le plateau avec Karel Brica, chargée d'études à l'ONG CPDFM, citoyenne pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, et Con Emmanuela, la directrice exécutive de l'Organisation pour la réflexion et l'action féministe ORAF, et au téléphone Sylvie Apata, cofondatrice de l'ONG CPDFM, et Koulibaly Pélibien Gislain, qui est sociologue, spécialiste genre, par ailleurs président du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre en Côte d'Ivoire, REXI. Encore merci pour votre contribution.
Merci.
Franco, yes, hommage à toutes les femmes battues. Yes. Check ça. Trouver la femme de sa vie, mon ami, ça c'est pas facile. Toi tu as déjà trouvé la tienne, mais pourquoi tu veux faire l'imbécile? À cause de tes coups de poing, elle a déjà mal à la tête. Si ça continue comme ça, je te promets que tu vas finir par la perdre. Laisse-moi te dire quelque chose de très important. Mon ami, tu sais, dans un couple, on n'a pas besoin de violence pour se comprendre. Ta femme a besoin d'affection, mais toi tu lui donnes les coups de pied de Van Damme. Elle est formée comme une guitare, mais toi tu la traites comme un tam-tam. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon ami, tu me déçois. C'est toi le chef de famille, mais ça ne te donne pas le droit de faire n'importe quoi. Respecter ta partenaire. Mon ami, tu dois le faire. Le mariage n'est pas un champ de guerre. Arrête de prendre ta femme pour une adversaire. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Quand tu la draguais, tu étais l'homme le plus gentil. Tu brûlais d'amour pour elle, dans ton cœur c'était l'incendie. Mais aujourd'hui tu ne cesses de la frapper, tu ne cesses de l'étouffer. Aujourd'hui tu te comportes comme si on t'avait seulement forcé de l'épouser. Mais ce que tu fais là, je t'assure que ça ne sert à rien. Sache que le respect d'une femme ne se gagne pas avec des coups de poing. Tu lui donnes des coups de pied, tu lui donnes des coups de tête. Même quand ce n'est pas son anniversaire, mon frère, toi tu lui fais sa fête. Avant d'agir, mon ami, tu dois réfléchir. Ta femme et toi, vous devez vous mettre ensemble pour votre devenir. Mais au lieu de l'entretenir, toi tu la fais maigrir. Mais lorsqu'elle aura envie de partir, même tes larmes ne pourront pas la retenir. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam. Faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam.